Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral si vous nous retrouvez.
La semaine dernière, nous avons présenté les maisons d'arrêt, notamment de Gap et de Digne-les-Bains. Aujourd'hui, le thème de notre émission est les aménagements de peine. Donc pour cela, nous excusons le juge d'application des peines, M. Arnaud Delmoral, qui n'a pas pu se libérer pour être présent à cette heure du direct, ainsi que la substitut du procureur Pauline Loine, chargée entre autres de l'application des peines. Mais je suis ravie d'accueillir trois invités. Fabienne Husseglio, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, chef de l'antenne des Alpes-de-Haute-Provence. Bonsoir.
Bonsoir.
Julien Vimille, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'antenne des Alpes-de-Haute-Provence. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis bien sûr, Olivier Villès, directeur du SPIP 0405.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, eh bien, nous allons faire le tour de ce sujet, les aménagements de peine. Qu'est-ce qu'on appelle un aménagement de peine ?
Écoutez, assez rapidement, puis je passerai la parole aussi à Madame Husseglio, qui a tous les éléments et toute la connaissance fine sur le sujet. Peut-être rappeler que les aménagements de peine se mettent en place dans deux conditions particulières. D'abord pour les personnes qui sont incarcérées, pour essayer de préparer leur sortie. Ça, nous l'avons déjà évoqué lors des émissions précédentes. C'est permettre à quelqu'un qui est incarcéré de ne pas sortir à la fin de sa peine, sans suivi et sans préparation, mais bien trouver les meilleures solutions d'un retour préparé dans la société, dans le cadre de donc, ce qu'on appelle les aménagements de peine. Ça, c'est un des premiers sujets. Je laisserai Mme Husseglio préciser les conditions dans lesquelles elles peuvent se mettre en œuvre, parce que bien évidemment, il y a des conditions structurées et organisées pour pouvoir mettre en place un aménagement de peine. Et puis après, on verra avec M. Vimy aussi la partie pédagogique, j'allais dire la partie opérationnelle sur laquelle il travaille au quotidien, puisque c'est une de ses fonctions, entre autres, de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, de devoir travailler sur la question des aménagements de peine. Et puis la deuxième condition de mise en œuvre des aménagements de peine, c'est lorsque les personnes sont condamnées au tribunal à une peine, alors je parle sous le contrôle de Mme Husseglio, à une peine de 2 ans d'incarcération pour une première condamnation et à une peine inférieure à 1 an d'incarcération pour une récidive, une infraction commise une deuxième ou une troisième fois. Donc c'est des conditions, vous voyez, c'est assez complexe et effectivement la loi cadre tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on appelle là des aménagements de peine ab initio, c'est-à-dire avant d'aller en prison, on propose à la personne, si elle en est d'accord, de pouvoir lui donner des solutions alternatives à l'incarcération, dont on sait que pour un certain nombre de personnes, l'incarcération n'est jamais la solution et peut parfois créer une rupture plus importante que l'électrochoc dont on peut parler quand on parle d'incarcération.
Donc la personne qui risque l'emprisonnement a ce choix.
Alors la personne qui risque l'emprisonnement, mais c'est là où je vais demander à Madame Husseglio de prendre le relais, c'est la personne qui risque l'emprisonnement, effectivement, on peut lui proposer, et il doit accepter, la mise en œuvre d'un aménagement de peine. Mais on va peut-être laisser vous présenter les différents types d'aménagement de peine qui existent et qu'on peut proposer aux personnes.
On connaît vaguement les bracelets électroniques, mais il y a plein d'autres choses.
C'est ça.
Alors, je veux bien que vous nous donniez des informations, Fabienne Husseglio.
Effectivement, lorsque nous travaillons à la prévention de la récidive avec les personnes condamnées, on travaille pour les personnes incarcérées dès la mise sous écrou. On prépare déjà la sortie avec ces personnes. Et pour les personnes qui sont en milieu ouvert, dont la peine n'a pas encore été mise à exécution, puisque lorsqu'une juridiction de jugement prononce une condamnation, elle a la possibilité de mettre tout de suite à exécution en délivrant un mandat de dépôt ou laisse le temps au procureur de la République de mettre cette peine à exécution. Alors, en détention, une fois que la personne exécute sa peine, elle a la possibilité, lorsque le reliquat de sa peine est inférieur à 2 ans si elle n'est pas en récidive ou 1 an si la personne est en récidive, a la possibilité de solliciter un aménagement de peine. L'aménagement de peine, c'est une mesure qui va être parfaitement adaptée à la situation du condamné. Alors, les différentes possibilités, effectivement, il existe le placement sous surveillance électronique qui autorise la personne condamnée à sortir de son domicile pour l'exécution de son activité professionnelle, de sa recherche d'emploi, de sa formation, selon les hypothèses. La semi-liberté, où là, la personne est autorisée à sortir de l'établissement pénitentiaire le temps de l'exercice de son activité professionnelle, de sa recherche d'emploi, éventuellement de ses soins ou autres, en fonction de ce qui aura été décidé. Il y a également le placement extérieur qui est possible, mais qui demande un placement dans une structure habilité. Actuellement, il n'y a pas de structure sur le 04 qui nous permette ce type de placement extérieur. Et la personne également, une fois qu'elle a effectué la moitié de la peine, elle a la possibilité de demander une libération conditionnelle. La libération conditionnelle, c'est un aménagement de peine, mais qui n'est pas sous écrou. Par opposition à la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique et le placement extérieur, qui sont des aménagements de peine sous écrou, la personne est considérée comme exécutant sa peine. La libération conditionnelle n'est pas une mesure qui s'exécute sous écrou. Une autre possibilité d'aménagement de peine, mais qu'on utilise assez peu, c'est le fractionnement de la peine qui permet à une personne de faire sa peine en plusieurs étapes. On peut imaginer par exemple un étudiant qui pourrait faire sa peine pendant les vacances scolaires. Voilà pour les aménagements de peine.
On peut revenir donc, par exemple, le placement sous surveillance électronique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, la personne est libre et peut être contrôlée. Comment ça se passe?
Alors, la personne est équipée d'un dispositif qui se place à sa cheville. Un dispositif également est installé à son domicile. La personne va être astreinte à rester chez elle à certaines heures et se doit de respecter ses horaires d'assignation. Et dès lors que les horaires ne sont pas respectés, nous allons être informés par un système d'alarme automatiquement. Voilà comment ça se passe. Autrement, la personne, le temps du placement sous surveillance électronique, doit justifier régulièrement de son activité pour laquelle elle a bénéficié de ce placement.
Voilà, ce qu'on peut peut-être rajouter en précision sur le placement sous surveillance électronique, c'est que les horaires sont toujours adaptés à la situation de la personne. C'est-à-dire qu'il va avoir des horaires, s'il travaille, qui vont prendre en compte ses horaires de travail, plus les horaires de déplacement pour se rendre au travail. En dehors de ça, il devra rentrer chez lui. Sur le week-end, il aura des autorisations de sortie réduites qui, en général, sont de 4 heures sur la journée, qui peuvent être réparties 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ou 4 heures le matin, ou 4 heures l'après-midi, en fonction, encore une fois, de la personne et de la situation de la personne. Et le week-end, des horaires adaptés qui sont réduits et qui vont permettre à la personne de quand même pouvoir faire, soit pratiquer une activité extérieure, soit aller faire ses courses aussi, parce que bien évidemment, il faut qu'il puisse continuer à vivre durant son placement sous surveillance électronique. Quelqu'un qui n'aurait pas d'activité professionnelle, mais il aura des horaires de sortie très réduits sur la journée pour lui permettre de faire ses démarches de recherche d'emploi ou un certain nombre de démarches administratives qu'il va devoir réaliser dans la semaine. Donc on est vraiment sur quelque chose de très cadré, et dès que la personne ne respecte pas ses horaires, c'est-à-dire ne rentre pas ou n'est pas chez lui aux heures qui sont repérées, on est immédiatement prévenu. Et nous, quand je dis nous, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, va devoir faire une enquête, contacter la personne, voir avec elle les raisons qui l'ont amené à ne pas respecter ses horaires.
C'est un peu comme une localisation qui se fait simplement. Comment ça se passe?
Alors, c'est absolument pas une localisation. La personne est repérée uniquement quand elle est à son domicile, dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique. Le reste de la journée, elle va qu'à ses occupations, mais on ne sait pas forcément où elle est. Par contre, dans un deuxième temps, la personne doit justifier des motifs pour lesquels elle a bénéficié de son placement sous surveillance électronique. Justifier de son travail, justifier de la mise en place de soins s'il y a une obligation de soins, justifiée de toutes les démarches qu'elle fait. Mais elle n'est pas repérée, elle n'est pas géolocalisée en fait.
Non, elle est suivie. On a au service pénitentiaire d'insertion et de probation des surveillants pénitentiaires qui sont chargés du suivi du placement sous surveillance électronique et qui aussi se déplacent régulièrement à la fois sur les lieux de travail des personnes, à la fois à leur domicile pour aussi faire des contrôles en permanence, et convoque les personnes au service de manière régulière pour voilà leur permettre de justifier de leur situation et du respect des obligations qu'ils peuvent avoir pendant le déroulé du placement sous surveillance électronique. Donc c'est une mesure qui est extrêmement cadrée et extrêmement suivie.
Est-ce que ça arrive souvent? Enfin, vous dites extrêmement suivie, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui dérogent à la règle, qui n'est pas chez elles, qui ne respectent pas les horaires.
Si, bien sûr, ça serait mentir que de dire que tous les placements sous surveillance électronique, mais c'est comme si vous me posiez la question de savoir s'il n'y a personne qui s'évade des établissements pénitentiaires. Ouais. Donc on a effectivement des personnes qui ne respectent pas les horaires,
alors,
mais il peut y avoir plusieurs raisons.
Qu'est-ce qui se passe pour ça ?
Là, on va lui demander d'expliquer. Mm-hmm. Soit c'est une raison valable, un problème de santé, un problème d'urgence qui l'a amené à aller à l'hôpital. Je prends tout de suite une situation un peu extrême, mais il peut y avoir un horaire de bus qui s'est décalé, une panne de train, puisqu'on parle beaucoup de la SNCF en ce moment. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons qui sont des raisons qui justifient le fait que la personne soit arrivée en retard à son domicile par rapport à ses horaires. Et puis, il peut y avoir des raisons qui, à un moment donné, la personne n'est pas rentrée pour X raisons qui ne sont pas justifiées par une situation extérieure, mais par un choix personnel, auquel cas, là, la personne va devoir s'expliquer. Si il va y avoir un rappel, ce qu'on appelle un rappel à l'ordre de la part du surveillant pénitentiaire, de la part de notre service, et si la personne, selon sa situation, fera l'objet d'un rapport au juge d'application des peines, et juge d'application des peines qui, lui, à ce moment-là, a plusieurs possibilités. D'abord, le convoquer, ce qu'on appelle un rappel des obligations. C'est un premier niveau. Si ça suffit pas et si effectivement la personne reproduit et récidive dans le non-respect de ses obligations, il peut décider de, à ce moment-là, mettre à exécution la peine, puisque je rappelle, on est dans une peine alternative à l'incarcération, et à un moment donné, le juge d'application des peines peut décider de mettre à exécution la peine et donc d'arrêter l'aménagement de peine.
Est-ce qu'on peut savoir comment c'est vécu ces bracelets électroniques par les personnes qui vivent cet aménagement de peine ?
Tout dépend de la situation de la personne. Généralement, les personnes qui sont les jeunes condamnés, les jeunes personnes suivies ont des difficultés à ce niveau-là, de respecter à la fois un cadre qui est très contraignant, puisque souvent on pense que la prison à domicile c'est facile, mais c'est très compliqué, surtout quand il y a des sorties avec leurs amis où eux ne peuvent pas participer. Après, ça reste une alternative à l'incarcération, oui. Donc ils saisissent leur chance. Beaucoup de personnes qui sont incarcérées rêvent du bracelet électronique pour pouvoir sortir. Beaucoup de personnes qui sont suivies sous bracelet électronique aimeraient que cette mesure s'arrête, puisque c'est très contraignant, effectivement.
Ce qui serait intéressant, on est déjà dans le détail des mesures, des types de mesures d'aménagement de peine, mais si on ne parle pas de comment on décide de la mise en œuvre d'une mesure auprès de ces personnes, et donc de l'enquête qui est réalisée notamment par nos services sur commande du juge d'application des peines, effectivement, il va nous échapper quelque chose parce qu'on va parler du placement sous surveillance électronique. Oui. On a vu dans la présentation de Mme Husseglio sur les mesures en milieu fermé d'aménagement de peine, de préparation à la sortie, qu'il y en a un certain nombre. Il faut peut-être rappeler, et là M. Vimy peut nous en parler très précisément, rappeler dans quelles conditions on prépare un aménagement de peine. Et effectivement, toute la manière dont ça s'adapte à la personnalité et au possible des personnes. Et c'est là que ça prend un intérêt. Et on comprendra mieux pourquoi il y a tout un panel de possibilités d'aménagement de peine.
Juste une petite précision, c'est quelque chose qui n'est jamais imposé. C'est toujours à la demande de la personne condamnée.
Julien Vimy, vous êtes conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Votre travail consiste en quoi ?
Alors, j'interviens sur la maison d'arrêt de Digne-les-Bains dans le cadre du suivi des personnes condamnées et des personnes détenues aussi. J'interviens aussi à l'extérieur, donc sur ce qu'on appelle le milieu ouvert, pour les suivis de type mise à l'épreuve, les travaux d'intérêt général ou les jours amendes ou les libérations conditionnelles qui sont des aménagements de peine. Plus particulièrement concernant la maison d'arrêt, puisque c'est le cadre de cette interview aujourd'hui par rapport aux aménagements de peine. Enfin, l'aménagement de peine, on pense souvent que la personne arrive et dépose sa requête auprès du juge d'application des peines. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la pratique, dès que la personne est incarcérée, on va parler d'aménagement de peine sans en parler. On va leur proposer un parcours d'exécution des peines qui aboutit sur un aménagement de peine. Ce parcours d'exécution des peines est à la fois établi donc par le service pénitentiaire, mais conjointement avec tous les partenaires intervenant sur la maison d'arrêt. Donc sans ce travail pluridisciplinaire, l'aménagement de peine ne peut pas aboutir.
Et ça consiste en quoi alors ce parcours ?
Ce parcours d'exécution des peines, ça peut être dans l'établissement d'un projet professionnel, dans la mise en place ou la poursuite de soins quand il y a des problématiques addictives ou des problématiques psychologiques. Ça peut être aussi dans la mise en place de versements volontaires pour les parties civiles, dans l'inscription d'activités, dans le respect du règlement intérieur de la maison d'arrêt, dans le respect aussi du personnel de pénitentiaire et aussi le respect des détenus. C'est vraiment global, c'est très global. On ne s'arrête pas simplement sur un travail, sur une situation particulière. À ce niveau-là, chaque mois, on a des commissions pluridisciplinaires uniques qui se tiennent au sein même de la maison d'arrêt avec plusieurs intervenants. Donc nous avons à la fois les partenaires historiques comme le Pôle emploi, des partenaires plus locaux comme l'ergologique qui intervient pour le Centre populaire de l'enseignement. Nous avons aussi le XAPA de Digne qui intervient dans la prise en charge addictologique. l'unité médicale de la maison d'arrêt qui nous donne un aspect un peu plus médical, psychologique sur la situation des personnes. Nous avons aussi tous les intervenants qui ne sont pas forcément présents mais qui œuvrent sur la maison d'arrêt, les formateurs, les responsables locaux de l'enseignement, la détention surtout, puisque pour nous c'est un très gros partenaire puisqu'ils côtoient les personnes détenues au quotidien, donc ils peuvent nous faire des retours sur leur comportement. À partir de là, de cette CPU, on fixe des objectifs qu'ils ont à suivre tout au long de leur exécution de leur peine. Et dès qu'il est possible de déposer une requête en aménagement de peine, on les accompagne à ce niveau-là.
Et alors, ça demande combien de temps pour...
C'est un travail de longue haleine. On peut travailler sur 2 mois, 3 mois, comme sur des années. Sur la maison d'arrêt de Digne, on est plus sur du travail sur 5 à 6 mois, sur des longues peines, donc sur 1 an. Sur les plus courtes peines, on essaye d'être plus rapidement actif sur le projet de la personne et surtout sur son parcours d'exécution des peines. Mais c'est vrai qu'on est tenu par les délais puisqu'on évite absolument les sorties sèches. Les sorties sèches créent de la récidive.
Donc les sorties sèches, c'est des sorties sans accompagnement extérieur.
Effectivement, les sorties sèches, ce sont les sorties sans accompagnement extérieur ou sans suivi de nos services à la fin de la peine. Et on s'est rendu compte, par le biais de statistiques, que c'était vraiment facteur de risque de récidive. Oui.
Voilà, on peut l'analyser assez rapidement. C'est-à-dire que quand vous laissez sortir quelqu'un où rien n'a été préparé, qui va sortir sans emploi, sans logement, avec une situation familiale souvent dégradée, bon, effectivement, on réunit tout ce qu'on appelle les facteurs de risque en matière de délinquance d'une personne qui va se retrouver seule, isolée, sans support et sans soutien et sans environnement qui lui permet de se reconstruire. A contrario, quand on va préparer cette sortie et qu'on aura à la sortie réglé les problèmes de logement, régler les problèmes d'emploi, régler les problèmes de rapports familiaux, parce que là aussi, la prison crée cette rupture, et parfois une rupture familiale complexe à reconstruire, et une vie familiale à reprendre aussi dans son quotidien. Quand tout ça est préparé, on a effectivement là aussi tous les éléments d'analyse et tous les facteurs qui permettent à la personne de se retrouver dans une situation et dans un contexte extrêmement favorable pour qu'elle ne reproduise pas un acte de délinquance qui l'a fait à un moment donné se retrouver condamnée par le tribunal.
Pourquoi il y a encore des sorties sèches? Alors, ça dépend de qui, de quoi?
Écoutez, je vois M. Bibi qui veut répondre. Je donne un élément, puis je lui donne la parole tout de suite. Un élément, c'est d'abord, Mme Usiglio l'a dit, il faut que les personnes soient volontaires. Mm-hmm. Certaines personnes ne souhaitent pas être accompagnées pour un aménagement de peine et préfèrent terminer leur condamnation et aller au bout de leur condamnation pour ne plus avoir affaire avec la justice. Dans ces cas-là, effectivement, c'est leur choix et ils s'organisent autour de ça. On peut penser qu'il y en a un certain nombre dans ces décisions-là qui ont un réseau familial qui leur permet de se réintégrer et de retrouver une place dans la société. Après, il y en a d'autres qui souhaitent ne plus faire leur temps de prison et ne plus avoir affaire à la justice à la sortie de la détention. C'est un élément qui reste et qui appartient, on le disait, à la personne dans son choix de parcours d'exécution de la peine. C'est aussi un parcours d'exécution de la peine que de décider d'aller jusqu'au bout de sa peine d'emprisonnement et de ne plus avoir affaire à la justice en sortant. En tout cas, en sortant de prison, s'il n'y a pas de récidive.
Alors, par exemple, pour la maison d'arrêt de Digne, en sachant qu'il y a une quarantaine de détenus, ça fait une moyenne de combien d'accompagnements?
Pour les suivis, pour les CPIP, on est à peu près une vingtaine, on est à 2 à intervenir sur la maison d'arrêt actuellement. Avec Mme Châtelain, on est à une vingtaine de personnes suivies, à la fois personnes prévenues et personnes condamnées.
Oui, parce qu'il y a encore tous les prévenus, les condamnés, ce sont encore
des termes, des appellations
termes,
sur lesquels...
Voilà, dont on ne comprend pas forcément beaucoup de choses.
On peut rapidement le dire, le prévenu, c'est la personne qui est incarcérée en amont de la condamnation. Et donc qui est dans l'attente de son jugement. Alors ça peut être un premier jugement, ça peut être un jugement en appel ou un appel en un pourvoi en cassation. Donc la personne est dans l'attente et là avec cette personne on va faire un travail qui ne sera pas tout à fait le même puisque tant qu'on ne sait pas quelle va être la peine qui va lui être appliquée, il est compliqué de pouvoir travailler à des perspectives de sortie, à des perspectives de réinsertion tant que cette peine n'est pas effective et n'est pas validée par la juridiction.
Est-ce qu'un prévenu, c'est la même chose que quelqu'un qui est en détention provisoire?
Alors, un prévenu, c'est la détention provisoire, c'est ça. Et la personne condamnée, c'est celle qui a son jugement, a épuisé toutes les phases de recours éventuelles et il exécute sa peine, qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, puisqu'il faut aussi travailler à ce que la personne accepte la condamnation qui lui a été prononcée. Ce n'est pas toujours le cas.
Donc le condamné devient un détenu.
Le prévenu est un détenu aussi.
Tout, oui.
Juste une petite nuance par rapport au prévenu, même si on n'est pas dans l'instruction, on n'intervient pas dans la procédure d'instruction, dès leur incarcération, on essaye quand même de travailler sur leur projet de sortie, puisque la détention provisoire, parmi l'arsenal français qui existe d'un point de vue juridique, on a la détention provisoire, on a le contrôle judiciaire et on a le bracelet électronique avant jugement. Donc les personnes qui sont placées en détention provisoire le sont pour diverses raisons. Il n'y a pas que pour protéger la société, ça peut être aussi pour les protéger, elles, d'autres représailles. Mais on essaye quand même de travailler ça, donc à travers des formations, à travers la mobilisation de la structure familiale aussi. On travaille avec les soins, puisque ça peut être des personnes qui arrivent avec des problématiques addictives. Et le passage en détention peut leur être bénéfique à ce niveau-là, sur le travail des addictions. Donc ça n'est pas un aménagement de peine à proprement parler, mais nous, dans notre travail au quotidien, c'est comme un aménagement de peine. On prépare un parcours d'exécution des peines et on les pousse à faire des demandes de mise en liberté à travers des bracelets électroniques ou des contrôles judiciaires.
Après, on peut aussi, sur la construction de l'aménagement de peine, il y a un lien avec des choses qu'on a évoquées lors de l'émission sur la maison d'arrêt, notamment le développement de l'ensemble des activités qui sont mises en place au sein de la maison d'arrêt, qu'elles soient de nature culturelle, de nature sportive, de nature professionnelle, puisqu'on essaye d'avoir une variété de réponses qui correspond à une offre qu'on peut trouver à l'extérieur, puisque on va le redire encore une fois, mais les personnes sont privées de liberté, mais ils ne sont pas privés de leurs droits. Et leur droit, c'est d'avoir accès à aussi à ce que la société peut proposer à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire dans tous les domaines possibles. Et donc ces activités qui parfois peuvent paraître aux citoyens des éléments de confort de mise en œuvre dans un établissement pénitentiaire, puisqu'on aurait tendance à penser ils sont en prison, il faut qu'ils soient en prison, voilà, ils sont privés de liberté, mais alors pourquoi on leur fait faire de la culture, pourquoi on leur fait faire du sport, voilà. C'est tous ces éléments d'activités auxquels ils vont participer donnent aussi, nous permettent de les voir dans un contexte différent, dans des rapports à des intervenants extérieurs, dans des rapports à leurs collègues, dans des fonctionnements sociaux et de groupe qui nous permettent, c'est le directeur qui parle, donc qui permettent aux conseillers qui les suivent, aux conseillers pénitentiaires, de recueillir tout un tas d'éléments d'analyse leur permettant de construire au mieux la réponse en matière d'aménagement de peine. C'est aussi dans la pratique de ces activités qu'on va les voir évoluer, qu'on va les voir s'impliquer ou ne pas s'impliquer, prendre de la distance, être complètement pris par l'enjeu sur lequel ils vont se positionner pendant une semaine ou une journée. Et du coup, ça donne tout ça aussi, donne des éléments de nature à pouvoir construire cet aménagement de peine et avoir la meilleure réponse possible, adapté à la personne pour aller vers une réussite et pas un échec ou une récidive, ce qu'on appelle nous l'échec qui peut être une récidive. Et on développe ces activités, on s'appuie sur un réseau partenarial. Alors on a cité le réseau à l'interne, mais moi je voudrais citer le réseau à l'externe. On a aujourd'hui sur le département des Alpes de Haute-Provence signé 11 conventions avec des partenaires du réseau de l'insertion par l'activité économique. C'est aussi quelque chose qui nous permet, qui est un vrai support pour nous et qui nous permet un retour et un accès à l'emploi dans des conditions, je dirais, un peu adaptées et qui permettent un retour facile à l'emploi pour ces personnes qui ont été en rupture un moment important dans leur parcours de vie. Et ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on s'appuie, qui nous permettent d'avoir des réponses partout sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, parce que les gens qui sont en prison à Digne n'habitent pas forcément Digne. Ils peuvent habiter Barcelonnette, Josier, Castellane, enfin l'ensemble du territoire départemental, puisque quand même beaucoup de détenus sont des détenus du département des Alpes de Haute-Provence. Donc ça aussi, c'est un véritable intérêt. Et c'est cette construction de réseau, ces réponses collectives partagées, analysées sur la situation d'une personne qui nous permettent, alors là le directeur est un peu fier, donc je vais en profiter, d'avoir des résultats, puisqu'on nous interroge souvent sur les statistiques, d'avoir des résultats qui sont intéressants en matière d'aménagement de peine. On est un département où aujourd'hui on a 56% d'aménagement de peine sur l'ensemble des personnes qu'on suit, et 56%, nous avons un objectif qui nous est fixé à 23% au plan national. Donc c'est une vraie réussite, mais qui n'est pas due qu'au service, qui est due à l'ensemble de ce travail, de ce réseau, de cette intervention qu'on conjointe des personnes sur ce parcours d'exécution des peines. Après, on était sur la détention. Je pense qu'il faut aussi parler, je le disais, des aménagements de peine qu'on disait ab initio, parce que c'est aussi quelque chose qui renvoie à des questionnements où la personne est condamnée à une peine de prison. On disait 2 ans dans le cas d'une première condamnation, 1 an dans le cas d'une récidive, et pour lequel on va proposer à la personne un aménagement de peine, et donc une personne qui, effectivement, ne va pas être incarcérée et qu'on va retrouver dans la rue après sa prise en charge dans le temps de justice sur lequel il se met en place. Donc c'est important aussi de parler de ces aménagements de peine-là, parce que c'est vraiment une réponse pénale qui se formalise, mais qui est un peu moins visible pour le citoyen ou pour la population en général.
Alors j'imagine que pour ces aménagements de peine où ces personnes se retrouvent dans la rue, j'imagine que ce ne sont pas des personnes dangereuses pour leur environnement. Est-ce que quelqu'un qui a commis un crime peut se retrouver avec un aménagement de peine et
Tout d'abord, vous visez un crime. Les crimes ne sont pas ciblés pour les aménagements de peine pour les condamnés libres. Mmh. Là, on parlerait plus de délits. Ensuite, c'est une réponse aussi pour éviter la surpopulation carcérale, à savoir qu'un aménagement de peine pour une personne qui est dite condamnée libre, ça ne veut pas dire que lorsqu'elle sort du tribunal, il n'y a rien. Elle est convoquée au service pénitentiaire, un premier entretien est effectué. Ensuite, nous, on a 2 à 4 mois pour effectuer le rapport. Donc pendant ce laps de temps, nous continuons à la convoquer. On lui demande de justifier de toute son activité, de sa situation personnelle. On est mandaté par le juge d'application des peines pour effectuer des visites à domicile, tout comme pour les personnes qui sont incarcérées. Donc on est là pour vérifier la situation de la personne dans son ensemble. On laisse pas une personne comme ça dans la nature sans qu'il y ait un contrôle. Sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, on a la chance de pouvoir se libérer assez rapidement pour effectuer ces enquêtes et apporter une réponse pénale qui soit assez immédiate, même si ça peut prendre du temps par moment, mais la réponse, elle y est quand même.
Alors, qui décide au final de l'aménagement de peine qui va être choisi ou le plus adapté ?
Alors, c'est le juge de l'application des peines qui prend la décision finale. En débat contradictoire. Le débat contradictoire, c'est une audience qui n'est pas publique, en présence du procureur de la République, du juge de l'application des peines, qui est le président de la juridiction, et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc dès lors qu'il a été envisagé un aménagement de peine, comme disait M. Vimy, il y a une enquête qui est faite par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, un rapport social, éducatif et un point qui est fait sur toute la situation de la personne. Ce rapport est remis au magistrat. Et lors du débat contradictoire, la personne condamnée va s'expliquer, donner ses motivations et le juge, au vu de tous les éléments, va prendre sa décision. Il écoute l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les réquisitions du procureur qui va aller dans le sens d'un aménagement de peine ou pas. Et la décision est prise. Alors, si on revient sur les aménagements de peine du milieu ouvert, je voulais préciser qu'il y a 2 mesures qui sont un petit peu différentes. Lorsque la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à 6 mois, il existe également la possibilité de convertir cette peine en sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, ce qui est une mesure pour nous particulièrement intéressante et efficace, puisque ça va permettre... pendant un délai de 18 mois, d'évaluer la personne par le biais du travail d'intérêt général à la remettre dans une dynamique positive. Donc pour ça, la peine doit être inférieure ou égale à 6 mois. Et également, le juge a la possibilité de prononcer un jour amende.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que le juge va prononcer un certain nombre de jours d'emprisonnement correspondant à un montant d'amende. Par exemple, 100 jours amende à 2 euros, c'est vraiment un exemple. La personne, à la fin du délai imparti, doit payer les 200 euros.
Donc, ce n'est pas 200 euros pour être libéré, ça fait partie du temps aussi de...
Voilà. Après, pour prononcer ce type de peine, le juge d'application des peines va bien évidemment prendre en compte la situation financière de la personne, son positionnement par rapport aux faits, son évolution, en fait. Un jour amende ne pourra pas être prononcé si quelqu'un est multirécidiviste, a des dommages et intérêts qu'il n'a pas payés. Enfin, tous ces éléments sont pris en compte par le juge.
Ce qu'il faut bien entendre dans la mise en œuvre des aménagements de peine, c'est qu'aucune décision n'est prise à la légère. Ce ne sont pas des décisions qui sont comme ça. Tiens, j'ai envie aujourd'hui, j'aurai envie plutôt des jours amende, plutôt un sursis tige. Ah ben non, ben là, aujourd'hui, je vais... Non, soyons sérieux, on est en matière de justice, on a affaire à des personnes, on a affaire à des parcours, on a affaire à des situations, qui soient les situations d'actes de délinquance posés, qui sont diverses et variées. On a une échelle de délinquance. Alors c'est vrai qu'on pense toujours, quand on pense délinquance, quand on parle prison, on pense toujours, et vous nous avez bien posé la question, on pense toujours crime. Les crimes, c'est une partie...
Minime
de notre intervention, et même en matière de justice, si vous reprenez les chiffres nationaux, c'est pas la criminalité qui fait le gros de l'activité des services à la fois des juridictions, à la fois des services pénitentiaires et à la fois des personnes qui sont placées en établissement pénitentiaire. Donc on est bien, quand la décision va se prendre d'un aménagement de peine, on est bien dans une décision qui est toujours éclairée à la fois par l'ensemble de la situation de la personne. Donc vous évoquez si elle est dangereuse. Ben oui, si elle est dangereuse, il y a pu avoir des expertises psychiatriques ou psychologiques qui ont été commandées, qui vont permettre d'éclairer sur cet aspect-là le juge d'application des peines dans sa décision. Toute la partie sociale, comportementale, va être analysée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, va faire l'objet d'un rapport qui va aussi permettre au juge d'application des peines d'éclairer sa décision. Le parquet reste bien évidemment là dans sa fonction régalienne de regard sur le danger, la dangerosité, le risque par rapport à la société et le niveau de la peine qui doit être appliquée à la personne. Donc lui aussi va faire son réquisitoire au moment du jugement. Et bien évidemment, la personne qui est condamnée, avec son avocat, puisqu'il a aussi le droit d'être représenté et d'être défendu dans cette configuration, qui va aussi donner des éléments au juge d'application des peines. Donc toute décision, ce n'est pas une... on disait la personne ne se retrouve pas sans rien, et toute décision alternative va conduire à soit des exécutions horaires, on parlait du travail d'intérêt général, en même temps accompagné par un suivi du service pénitentiaire d'insertion et de probation, va être soit des jours amende, on l'évoquait, mais aussi en lien avec un suivi du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Enfin, on a toutes les mesures alternatives vont faire l'objet aussi d'un suivi et d'une prise en charge continue. Il peut y avoir des suivis pénitentiaires du SPIP qui vont jusque dans le cadre de ce qu'on appelle des suivis socio-judiciaires qui vont durer des années, plusieurs années. Et on va voir la personne pendant plusieurs années avec exigence de rendu compte, respect des obligations. Et s'il y a le moindre problème, ça fait l'objet d'un signalement et d'un rapport au magistrat qui peut être amené à révoquer du jour au lendemain la mesure d'aménagement de peine, et donc mettre à exécution et mettre la personne en détention s'il s'avère qu'elle ne respectait pas ses obligations de l'aménagement de peine. Donc on est dans quelque chose de très très sérieux, on n'est pas dans une alternative qui serait semblant de dire certes, il n'y a pas toutes les places en prison nécessaires, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les places en prison qu'on fait de l'aménagement de peine. C'est bien parce qu'à un moment donné, ce sont des choses qui permettent à la personne de ne pas créer une rupture, de lui permettre de se réinsérer dans la société, de maintenir son insertion dans la société, et surtout justement de ne pas être dans une logique de récidive.
Alors par rapport au travail d'intérêt général, quelques exemples, comment ça se passe aussi au niveau des horaires, des conditions?
C'est un travail, ça peut être assimilé à un travail salarié. On place beaucoup de personnes dans les collectivités territoriales ou dans le réseau associatif, ce qui constitue vraiment notre plus gros contingent, on va dire, de travail d'intérêt général. Les structures peuvent se permettre de fractionner le travail d'intérêt général, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du matin au soir du 35 heures semaine, ça peut être le travail le week-end si des personnes ont une activité professionnelle à côté de cette mesure. Ça peut être aussi du travail fractionné, donc sur du 20 heures semaine, 10 heures semaine. C'est vraiment la structure qui va décider de l'emploi du temps. Nous, on est constamment en lien avec cette structure, puisque comme toute activité salariale, si vous arrivez complètement alcoolisé sur le site, vous faites renvoyer, on vous renvoie chez vous, vous pouvez faire l'objet d'un licenciement. Là, c'est pas un licenciement. Ce qui risque, dans le cadre d'un TIGE, c'est soit un rappel à l'ordre ou de la part du CPIP ou une présentation devant le juge d'application des peines. Dans le cadre d'un sursitige où une peine d'emprisonnement a été prononcée mais qu'on a converti cette peine en travail d'intérêt général, il peut risquer un emprisonnement avec bien sûr présentation devant le juge d'application des peines et débat contradictoire préalable. Avant de faire ça quand même, on essaye nous de se déplacer sur la structure et de remettre les choses en ordre avant que tout périclite.
Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré.
Voilà, c'est ce que je voulais demander.
Non, ouais. Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré. Mais c'est quand même assimilé à une vraie activité professionnelle. L'objectif, c'est de remettre la personne dans la dynamique travail et lui permettre de s'intégrer, de retrouver un cadre de travail, des collègues de travail, un rythme de vie. Ça participe vraiment à sa réinsertion dans sa globalité. Et pendant la durée de l'exécution du travail d'intérêt général, on a un délai de 18 mois pour le faire exécuter. La personne a également éventuellement des obligations. Donc pendant tout ce temps-là, on va continuer à convoquer la personne, à s'assurer que les obligations sont bien respectées, qu'il n'y a pas de difficultés, que tout se passe bien. Et il nous est arrivé parfois, 2-3 fois depuis 2 ans que je suis là, que les personnes soient embauchées par la structure. Donc ça, c'est vraiment du positif.
Voilà.
Il y a du positif.
Voilà. On peut préciser aussi que le travail d'intérêt général, c'est entre les condamnations moyennes, hein, entre 80 heures et 240 heures de condamnation possible à exécuter, que ces heures vont devoir être réalisées intégralement, que si elles ne sont pas réalisées, ben à ce moment-là, j'en reviens à ce que disait M. Vimy sur les conséquences du non-respect de la mise en œuvre du travail d'intérêt général, que là aussi, on peut retrouver des intérêts entre... on parle souvent de la personne qui est condamnée pour un acte, on va travailler sur l'acte qui a été réalisé, sur le pourquoi, à un moment donné, la personne se met en situation de commettre un acte de délinquance, quel qu'il soit. Et parce que c'est aussi dans la reconnaissance et dans la compréhension de pourquoi, à un moment donné, j'ai commis un acte de délinquance, qu'on va pouvoir retravailler pour ne pas récidiver, ne pas le recommettre, si on reconnaît en amont le pourquoi on a fait cet acte-là. Donc c'est aussi dans le travail d'intérêt général le côté qui va permettre de mettre des fois la personne en relation avec le travail et l'acte qu'il a commis. Je pense des incivilités commises autour de graffiti, de destruction de biens publics. On va retrouver quelqu'un qui va se retrouver dans un service de nettoyage ou d'entretien d'une collectivité territoriale. Ça permet aussi de voir l'autre côté des choses. Quelles sont les conséquences de mon acte ? J'ai fait ça, mais derrière, qui travaille ? Pour remettre aux normes et aux conditions normales de vie dans une ville ou dans une société les dégradations que j'ai moi-même commises. Du coup, si je participe de cette reconstruction, ça peut, ce n'est pas systématique, mais ça peut contribuer à reconstruire la personne et à éviter qu'on soit dans de la récidive. On le dit souvent aussi sur les associations, on parlait des associations qui sont partenaires de la mise en place des travaux d'intérêt généraux. Je pense aux associations de solidarité générale, les Restaurants du Cœur, les Secours catholiques, la Croix Rouge, enfin on a un certain nombre de partenaires aussi qui nous permettent d'être dans la solidarité et j'allais dire un peu dans l'action sociale. Donc quelqu'un qui aurait été dans une situation d'être sur une forme d'agression ou de comportement un peu violent vis-à-vis des personnes à l'extérieur, le mettre dans une situation de confrontation à de la solidarité vis-à-vis de personnes plus démunies, ben souvent le reconstruit aussi et lui permet de se reposer la question de ses actes et de ne plus recommettre des actes tels qu'il a pu les commettre. Donc tout ça, c'est des supports qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, je lance un appel. Nous manquons, j'en profite, hein. je suis à la radio, donc c'est le travail d'intérêt général est vraiment une réponse très très adaptée pour beaucoup de personnes que nous suivons. Et on manque de réponses sur le territoire. Donc s'il y a des personnes qui sont membres d'une association reconnue d'utilité publique, s'il y a des personnes qui sont responsables dans les collectivités territoriales ou qui peuvent à un moment donné intervenir dans ce cadre-là, je les engage à nous contacter, service pénitentiaire d'insertion et de probation, Madame Husseglio ou moi-même, pour qu'on puisse déterminer avec eux les conditions de mise en œuvre d'une place de travail d'intérêt général qui est extrêmement cadrée, qui est extrêmement suivie par le SPIP, où toutes les garanties sont réunies pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions pour tout le monde.
Bien, ben j'espère que vous serez entendus et qu'il y aura de nombreuses structures qui feront appel à vous. La semi-liberté, si on veut revoir un peu les différents aménagements de peine, ça veut dire quoi ?
La personne est autorisée à sortir de l'établissement pénitentiaire sur la journée pour effectuer une activité ou une formation professionnelle. Donc le matin, elle sort aux horaires de sortie sur la maison d'arrêt de Digne, c'est à partir de 7h. Et elle réintègre la maison d'arrêt le soir à 18h. Actuellement, sur la maison d'arrêt de Digne, nous avons 3 personnes en semi-liberté qui ont soit une activité professionnelle, soit sont en formation professionnelle. Le but, c'est de pouvoir permettre à une personne qui n'a pas forcément d'hébergement de pouvoir accéder à un emploi ou à une formation tout en étant hébergée. C'est l'un des premiers pas vers la sortie, c'est un sas vers l'indépendance, puisque généralement, après une semi-liberté, les personnes ayant une activité réussissent à avoir un logement et on bascule dans ces cas-là soit vers un bracelet électronique, soit vers une libération conditionnelle. La semi-liberté n'est pas faite pour durer sur le long terme, puisqu'on conserve des conditions de détention avec la liberté de la journée de pouvoir travailler ou de pouvoir se balader, tout simplement. Donc quand je dis se balader, c'est de pouvoir, c'est la liberté d'aller et venir. Mais les personnes qui sont en semi-liberté ont aussi des obligations à répondre auprès de la justice et notamment auprès du service pénitentiaire, que ce soit au niveau du règlement des dommages et intérêts par rapport aux victimes, de justifier leur activité professionnelle ou d'un suivi addictologique, de passer les épreuves du permis de conduire. Ça peut être divers et varié au niveau des obligations. Donc il y a toujours ce contrôle, mais aussi cet accompagnement de la part du service pénitentiaire dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure.
Et puis la libération conditionnelle, alors si on peut avoir un peu plus de détails.
La libération conditionnelle intervient majoritairement lorsque la personne a effectué la moitié de sa peine ou lorsque la personne a ce qu'on appelle la conditionnelle parentale, c'est-à-dire qu'elle a des enfants à charge qui ont moins de 10 ans au domicile. Donc elle peut bénéficier de la conditionnelle. Ça consiste en une mesure de suivi par le service pénitentiaire à l'extérieur. Tout comme une mise à l'épreuve, elle doit répondre des obligations, donc comme j'ai expliqué précédemment, l'activité professionnelle, les dommages et intérêts, à savoir que la conditionnelle peut être prolongée par le juge d'application des peines. Lorsqu'une personne est sous conditionnelle, comme l'a dit Madame Useglio, elle n'est plus sous écrou, donc elle effectue, quoi qu'il arrive, la peine jusqu'au bout, sauf qu'elle est suivie par le service pénitentiaire dehors.
C'est un métier qui touche à l'humain, donc c'est forcément un métier encore plus complexe parce que l'humain, il n'est pas uniforme. Chaque individu a sa personnalité, sa situation, son parcours de vie. Et effectivement, on pourrait, chaque situation qu'on va avoir à traiter, même si elle est sur des condamnations et qui sont une palette de condamnations, chaque personne ne va pas vivre sa condamnation et ne va pas répondre de la même manière à sa condamnation. Et donc suppose un traitement, une prise en charge et un accompagnement, puisqu'on a bien à la fois le suivi et l'application de la peine, qui est un élément important de notre activité, mais aussi toute la partie insertion-réinsertion qui permet d'être dans la non-récidive, qui est quand même l'objectif final pour la société, c'est que la personne ne soit pas dans un cycle de reproduction de son acte de délinquance, mais bien qu'il en sorte et que si c'est la première fois, qu'il ne le reproduise pas, et s'il est déjà entré dans un cycle, qu'on casse cette espèce de spirale qui l'a amené à produire et à récidiver plusieurs fois pour le faire sortir de ce cycle. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Et effectivement, comme tous les métiers qui ont trait à de l'humain, c'est effectivement compliqué et la justice est un métier très compliqué.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont beaucoup de chances données à ces personnes qui ont commis des délits d'avoir un suivi, d'avoir une aide pour la sortie
Qu'est-ce que vous entendez par chance? Beaucoup de chance, c'est-à-dire?
Non, mais c'est votre métier de faire en sorte qu'elle soit le plus facilement accompagnée pour retrouver un emploi, un logement, tous ces aménagements de peine, plutôt que d'être dans une prison.
C'est pas une chance. Enfin, moi, je suis. Monsieur Vimy vous renvoie à la question sur la question de qu'est-ce qu'on appelle une chance. De mon point de vue, c'est pas une chance qu'on offre à la personne. C'est un certain nombre d'opportunités, de possibles,
qui lui permettent
de choisir, qui lui permettent de choisir et de décider comment il va se construire et comment il va construire son parcours face à un acte qu'il a commis à un instant T. Acte volontaire ou parfois involontaire, d'ailleurs. Hein, parce que si on reprend, on a, pour donner un peu la lecture de ce qu'on prend en charge, on a quand même 30% des condamnations sur ce territoire qui sont des condamnations liées aux infractions routières. Donc c'est conduite en état d'alcoolémie, conduite sans permis, conduite sous produits stupéfiants, conduite sans assurance, etc. Des récidives, ça arrive aussi, voire pas des récidives, mais vous savez, quelqu'un qui a bu une fois, qui sort avec son véhicule et qui renverse une personne... Eh bien oui, c'est un acte qu'il n'a pas maîtrisé parce qu'il a bu. On a couramment on fonctionne assez couramment avec ça, l'alcool au volant, on sait très bien, on connaît toutes les campagnes. Eh ben oui, ça, je vais reprendre un poncif, mais qui est une réalité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et nous, service pénitentiaire d'insertion et de probation, on peut vous le dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. On prend en charge des personnes qui sont des personnes qui étaient comme vous et moi, complètement insérées dans la société, parce qu'un soir, ils ont fait la fête et qu'ils ont bu un coup et qu'ils ont renversé une personne, et bien se retrouvent pris en charge par la justice. Donc face à cet acte-là, c'est aussi construire des parcours et des possibles pour ces personnes qui, à un moment donné, sont confrontées pour une première fois avec la justice. Alors, je prenais cet exemple. Après, il y en a des tas d'autres qu'on pourrait saisir pour dire qu'il y a nécessité d'offrir ces réponses-là, d'offrir ces possibles pour que les personnes, à la fois, s'en saisissent, mais s'en saisissent de manière accompagnée, parce que souvent, ben, on parlait de l'alcool, le rapport à l'alcool n'est pas simple à gérer. Il est rarement réglé seul. On le règle rarement seul. On a besoin d'être accompagné. C'est pour ça qu'il y a des services aussi spécialisés pour accompagner ça.
Merci. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous ai pas posées ?
Si on parle vraiment des aménagements de peine au bout, une émission d'une heure ne suffirait pas, puisqu'on parlait du rapport social des CPIP, mais on ne travaille pas comme ça au petit bonheur la chance. On a des outils. Notre jugement, c'est un jugement professionnel structuré. On va évaluer les risques, les besoins de la personne. On va essayer d'analyser, puisque la délinquance est un phénomène. Enfermer quelqu'un en disant « c'est un délinquant », c'est l'étiqueter et c'est la pousser à continuer. Alors que si on analyse plutôt l'acte comme un phénomène, et qu'on, sous divers facteurs, on peut avoir tout ce qui est addiction, le travail, l'oisiveté, les comportements dangereux ou les comportements antisociaux, et les pères délinquants si on va vraiment plus loin. Il faut vraiment qu'on arrive à identifier tous ces facteurs pour ensuite travailler avec la personne. Et vous me parliez de chance tout à l'heure, c'est pas une chance. Cette personne travaille sur son aménagement de peine. C'est pas nous qui lui proposons l'aménagement de peine. C'est elle qui travaille dessus en lien avec tous les partenaires, que ce soit à la fois sur la maison d'arrêt, mais aussi les partenaires extérieurs. Et on essaye de définir la peine la plus juste, puisque l'incarcération effectivement existe, mais on a quand même d'autres possibilités que l'incarcération. Donc c'est pour ça que définir la peine juste, ce serait vraiment notre travail, et d'accompagner cette personne dans cette peine, pour éviter qu'elle retombe dans ses travers, effectivement.
Vous êtes dans cette profession depuis longtemps ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non.
Parce que j'allais vous dire, tous trois, vous semblez passionnés par votre travail. C'était pour comprendre un peu les motivations qui vous ont amené.
J'aime l'être humain. Je pense que pour faire ce métier, il faut profondément aimer l'être humain. Je n'aime pas les personnes que je suis, je les accompagne. Et c'est important, puisque on ne doit pas non plus tomber dans l'affect avec ces personnes. On peut avoir de l'empathie, ça c'est important d'avoir de l'empathie, de pouvoir se mettre à la place de la personne. Mais on n'est pas là pour aimer une situation, puisque à partir du moment où on aime une situation, on a de l'affect, on perd cette objectivité dans notre analyse. Ensuite, pourquoi ce métier ? Parce que souvent j'ai entendu des choses par rapport aux personnes qui ont commis des actes répréhensibles. Mais à savoir, c'est comme l'a dit M. Avilés tout à l'heure, nous sommes tous des délinquants. Quoi qu'il arrive, on peut du jour au lendemain tomber sur les infractions routières, par exemple de rouler à plus de 230, ou bien de rouler à plus de 60 ou 70 en ville, et de renverser quelqu'un. Ça, c'est... Et on est une personne quand même insérée. Donc voilà un petit peu.
Fabienne Useglio.
Alors effectivement, moi j'ai commencé il y a 27 ans en tant que surveillante pénitentiaire. J'ai été confrontée à des personnes en grande difficulté en détention. J'ai ensuite passé le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, où là je me suis aussi rendu compte que les personnes qu'on était amenées à suivre avaient bien souvent des parcours personnels très compliqués, très chaotiques, et que cet accompagnement était vraiment indispensable, que c'était le rôle de la société que d'essayer de travailler avec ces personnes pour les faire avancer et pour les soutenir et les accompagner. Voilà, donc aujourd'hui, je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, et c'est vraiment un métier, une administration qui me passionne. Et voilà, il faut vraiment avancer avec les publics que nous suivons.
Le fait d'être une femme, puisque vous vous occupez essentiellement que d'hommes, à Digne et à Gap...
Non, aucune difficulté par rapport au fait d'être une femme, non. Dans l'exercice de nos missions, il n'y a aucune difficulté.
Il y a du respect autant que...
Du respect, voire même plus. Non, c'est vrai.
Olivier Villès.
Moi, j'ai un parcours, je ne suis pas un jeuneau, donc j'ai un parcours dans la fonction publique ancien, puisque je suis rentré en 1986 à la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une autre administration du ministère de la Justice, mais qui s'occupe des mineurs. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un certain nombre d'émissions aussi, parce que c'est très particulier la prise en charge des mineurs en matière de justice. Donc j'ai travaillé 20 ans dans cette administration. Ensuite, j'ai fait un parcours dans les collectivités territoriales au conseil régional PACA sur une mission de prévention de la délinquance. Et puis après, alors je parlais d'opportunités, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre le poste de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui était une nouvelle administration pour moi, que j'ai découverte et que j'ai découverte dans toute sa richesse. Et vraiment, c'est une administration qui depuis 3 ans me passionne, certes dans une fonction plus administrative puisque je suis directeur, mais l'enjeu pour moi c'est d'essayer de donner les moyens à mon équipe de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et croyez-moi, dans la fonction publique aujourd'hui, c'est un vrai challenge. J'essaye de le relever au quotidien, c'est pas toujours facile, mais en tout cas j'essaye de permettre aux agents d'être dans les meilleures conditions de travail possibles pour pouvoir prendre en charge les personnes dont ils ont le suivi au quotidien.
Je vous remercie tous les trois d'être venus pour nous parler des aménagements de peine aujourd'hui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur les milieux ouverts.
Le milieu ouvert. Ce sera une émission spécifique, justement, ce qu'on connaît moins sur le milieu ouvert, la façon de travailler dans le milieu ouvert. Peut-être là, ça sera l'occasion aussi de travailler les questionnements qui se font. Je l'avais évoqué dans ma présentation initiale de nos émissions. Souvent, quand on dit la personne est arrêtée et puis on la retrouve dans la rue. D'accord. C'est peut-être là aussi qu'il va être intéressant de savoir ce qu'est le travail du milieu ouvert, ce qui se passe, et effectivement que la personne qui se retrouve dans la rue, ben, elle ne se retrouve pas comme ça dans la rue le soir même.
Merci, à la semaine prochaine. Très bonne soirée à toutes.
Merci.
Merci. Au revoir.